dictionnaire, j'avais, par rapport au mot dictionnaire, j'étais, comment dire, un peu surpris, parce que pour moi, dans ma conception d'un dictionnaire, c'est pas un dictionnaire, c'est un répertoire de mots. J'adore votre travail, mais la seule chose, c'est que, et peut-être il faut garder le mot dictionnaire quand même, parce que ça, du coup, ça interroge, tu vois, et c'est plus parlant que le mot répertoire, par exemple, oui. C'est vrai. Mais souvent, je cherchais la définition et je la trouvais pas.
Vous avez récolté un choix subjectif de mots. Et donc, à un certain moment, vous avez appliqué l'idée d'évasion à ce choix de mots.
Évasion.
Évasion, fiction.
Ah oui.
Donc, ce sont des mots récoltés à Skerbeck.
Oui,
et qui vous emmène autre part.
Oui.
Cette idée de... Je vais lire Malangwa, là. Malangwa, c'est ça. Et je vais avoir toute cette émotion que vous exprimez en ce moment.
Oui.
C'est ça le but que vous recherchez.
Est-ce qu'il y a des mots dans le dictionnaire qui vous ont paru nécessaires de changer ou de... Oui, ou de ne pas mettre ou de changer comme...
Voilà, c'est un dictionnaire qui devrait s'appeler « Au plaisir des mots entendus à Skerbeck ».
Ça reprenait un peu plus la structure super classique, mais ça, elle est intéressante aussi, surtout quand on fait quelque chose de pas classique, du dictionnaire. C'est-à-dire de... Après, c'est très intéressant comme vous avez présenté, c'est très riche, parce qu'il y a justement le lien audio, et puis les mots liés, vous appelez ça, etc. Mais j'avais juste une interrogation sur... sur trouver des mots. Après, j'ai pas regardé tous les mots, mais j'en ai regardé quand même 100, je crois. J'avais du mal à trouver la définition.
Donc, c'est un projet pas francophone, mais scarabécophone. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un côté néerlandophone, il y a un côté turcophone, je sais pas quoi, l'ophone. En néerlandais, dictionnaire, c'est border book, et c'est très juste. C'est un livre de mots. Bon, on peut dire avec dictionnaire, on est très ouvert aux alternatives. Mais à ce moment-là, on chipote avec le français, je ne pense pas que c'est l'idée. Je pense que tout le monde est tout à fait d'accord que ce n'est pas un dictionnaire. On ne parle pas d'une langue si on parle de projet de la langue scarabécoise. Parce que le côté langue, pour nous, ça vient du contexte. Donc, on a cette raccourci de mots qui sont toutes implantées dans un contexte et tout l'ensemble. Donc, ça fait une chose cohérente, même si au premier regard, c'est une collection assez hybride, complètement déconnectée, avec des grands trous dedans. Mais c'est juste ça, c'est qui est vraiment intéressant. Et c'est, je pense, un des bouts de projet, c'est de penser autrement, de faire les liaisons entre les fragments. Donc, de ne pas respecter la langue comme il a écrit par les instituts, mais de dire, bon, voilà, il y a des gens dans la rue qui se parlent par rapport, par utiliser les mots, mais aussi par utiliser autre chose. Moi, j'ai une connaissance de français qui est très basale, donc parfois j'utilise autre chose que la
bien sûr, bien sûr.
Et voilà, ça se passe le dictionnaire, mais pour moi, ça rentre dans la même chose, le même truc. On est en train de communiquer avec.
Attention, hein, j'attaque pas du tout le projet, l'idée d'avoir des mots avec une définition.
Mais en ce qui concerne.
C'est intéressant aussi.
On parle de cette dérivée de langage. Et donc des dérivés de langage, un mot arabe qui dérive vers un mot scarabécois, comme un mot, comme le mot dictionnaire lui aussi devient aussi un dérivé de langage.
La langue c'est pour communiquer, c'est pour pouvoir communiquer, pouvoir mettre en place des liens. Voilà, pour moi la langue, il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire je peux utiliser la langue que je veux, et je crois que bon, et justement ce projet ça correspond tout à fait à cette démarche-là, dans le sens que quand il a fallu inventer un mot pour pouvoir mieux se faire comprendre, inventer un mot pour pouvoir mieux communiquer, on l'a inventé, il ne faut pas hésiter à inventer.
Mm-hmm.
Voilà. Il faut avoir cette audace-là.
Pour revenir au mot dictionnaire et le fait qu'il y a tellement peu de définitions dedans, c'est qu'on essaye de ne pas aller chercher sur Internet ce que le mot signifie, mais qu'on demande à la personne qui nous a offert le mot comment cette personne définit.
Sachant qu'il y a des mots qui ont plusieurs, pas définitions, mais plusieurs entrées, quoi.
Donc, toi, t'as voulu tout guillemets quelqu'un qui dit, mais non, ça, en fait, il a dit ça, mais ça ne veut pas dire ça. Donc, il y a une surenchère dans le bon sens du terme qui fait qu'à un moment, un mot a plusieurs entrées.
Mais quand on parle.
Et tu essaies de chercher la sonorité. Par exemple, quand on va utiliser un mot, je dirais théâtralement ou en niveau animation, on va chercher la sonorité.
Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le dictionnaire, qui n'est pas effectivement un dictionnaire. Pour moi, c'est plus un portrait sonore du quartier, en fait. Oui. Mais le côté morcellement, en fait, de cette liste de mots, base de données, mais je préfère liste, le mot liste de mots, et de pouvoir aller naviguer comme ça de manière assez aléatoire, d'un mot lié à un lieu où ça a été enregistré, etc. Et ça crée une espèce de... comme ça, un truc un peu une mosaïque, un peu quelque chose de dadaïste, un peu comme ça. Et c'est le bon reflet, c'est la page de garde, en fait, du site. C'est un petit robot qui va chercher de manière aléatoire les mots de la liste. Et puis, il y a des virgules et des points qui apparaissent, donc ça se fait une espèce de phrase comme ça. Et donc, ça crée quelque chose de complètement... inventé comme ça.
Fictionnel.
Je me dis qu'éventuellement, oui, on pourrait. Oui, c'est des mots qu'on peut utiliser. Dans la mesure où, quand je pense à ma propre littérature, souvent, quand je commence un chapitre, je peux commencer un chapitre par Kwangaya Muninga Batiakayango Misote. Et puis je traduis le truc. Et puis tu as une note de bas de page où il y a la traduction. Ça veut dire que le pain du voisin, on ne jette pas, on ne lorgne pas après le pain du voisin. À partir de là, je développe. Mais le fait de rentrer comme ça, moi je le fais, disons, presque machinalement. Mais après, quand le bouquin sort et qu'on entend les critiques, on se rend compte que ça, c'est une porte d'entrée dans Kinshasa. L'histoire se déroule à Kinshasa. Le fait d'utiliser une langue. Qui est la langue de Kinshasa, et que bon, vous avez la traduction ou vous n'avez pas la traduction, mais même si vous n'avez pas la traduction, en fait, ça vous fait rentrer tout de suite, vous êtes tout de suite à Kin. Et toute la suite, tout ce que je peux dire après, la personne va, c'est écrit en français. Mais seulement le fait de dire déjà « Kwangaya Muninga Batiakayango Misote », la démocratie chez vous ne fonctionne pas, mais tu as l'impression que ça, c'est la suite de cette phrase-là. Mais on rentre tout de suite dans le lingala. Alors j'imagine un auteur d'ici, le fait d'utiliser, parce que bon, c'est Schaerbeek, mais c'est Bruxelles aussi. Il faut voir Schaerbeek, il faut voir Bruxelles, il faut voir... voilà, c'est quand même plus vaste que Schaerbeek, je veux dire. Donc le fait déjà, si ces mots-là, ça, pour moi, ça peut être utile. En tant qu'auteur, si demain je vais écrire un scénario qui se déroule ici à Bruxelles, en commençant déjà là-dedans, on est dans la ville. Qu'on le veuille ou pas, là, on est en plein dans la matière. Moi, auteur, ça c'est l'opportunité que oui, moi, je peux utiliser ceci. Comme d'autres peuvent l'utiliser. Et puis c'est aussi... Parce que quand je dis « Kwangaya Muninga Batiakayango Misote », c'est le pain de manioc. Mais déjà, c'est quelque chose... Déjà, avec une petite phrase comme ça, on se rend compte tout de suite que l'aliment quotidien, c'est ce pain de manioc-là. Sinon, on n'en parlerait pas. Et quand on voit les choses qui sont ici, c'est des choses qui sont bien vivantes. On parlait de fleurs qui sont dans, voilà, qui sont dans un... c'est là. Alors peut-être on voudra peut-être savoir après. On voudra peut-être savoir, tiens, ces fleurs se trouvent où, quel est l'environnement de cette fleur. Déjà, quand on a parlé de l'étymologie, ça veut dire ça. Non, moi j'ai cru que ça veut dire ceci. Et voilà, et chacun a son interprétation, ça vous fait rentrer quelque part dans un monde qui est plus vaste que le mot lui-même.
Je pense que ce qu'on essaye ce soir, c'est ce que fait Freddy Smekes, qui est spécialiste du dialecte bruxellois. Et il écrit pour Brussels Dezebeek. Vous connaissez Brussels Dezebeek ? Oui, le journal, c'est un journal néerlandophone de Bruxelles. L'agenda est en trois langues. C'est assez bonne qualité. Il y a un monsieur qui écrit dedans sur les mots du dialecte classique bruxellois. Et à partir du mot, il décrit une ambiance. Et il décrit aussi le caractère bruxellois, en fait. Et donc, il fait, en fait, il fait aussi une sorte de dictionnaire, mais chaque semaine. Donc, et c'est un peu ça que je pense, le but.
J'ai appelé ça la préfiction. Donc, c'est en fait ce qu'on capte directement, ce qui nous rentre dans les tripes ou dans l'âme, ou peu importe. Donc voilà, je vous dis bon, cuvertine. Voilà, il y a cette évocation directe. Et puis après, il y a la transformation vers ce que j'ai appelé la fictionnalisation, où là, on est dans la narration, dans une histoire, où là, c'est finalement pas le mot. Enfin, il y a une évocation, mais c'est le mot devient un autre mot par rapport à ce que moi j'en fais, quoi.
Peut-être on peut aussi penser de post-fiction. Donc, quelles sont les implications des mots qu'on invite, invente, non, oui, ou qui sont pas là, ou qui apparaissent dans un contexte un peu bizarre, je sais pas, mais quels sont les effets dans pour la réalité qui est encore là. C'est ça, on voit beaucoup, on a vu les mots comme baguette, pain français, tu te souviens, qui est plus proche, qui sont bien expliqués. Je ne me souviens pas exactement comment, mais il y a un gars qui explique la différence entre une baguette et un pain français. Et il rentre dans une histoire, je ne sais pas, jamais vu, entendu parler de maïs qui est moulu et qui change la couleur de pain français. Et une baguette, c'est complètement différent parce que c'est plus large et plus long. Et tu penses vraiment, mais toi, tu es où? Et tu, ouais, j'adore le goût du pain français et pas contre le baguette. Bon, ça me fait rien. Et ça tient pas parce que ça part pas très vite. Et donc, il parle vraiment de son propre regard du pain. Et je reconnais rien du tout, tu vois. C'est vrai. Bon, pour moi, c'est... Bon, ils sont presque pareils. C'est la même chose. Donc... c'est aussi ça j'adore aussi, que ce sont des mots qui ne sont pas particuliers, qui sont très normaux, mais qui ont une signification complètement différente pour différents gens.
Qui habitent le même quartier. Oui.
Moi, je pense même qu'à des dictionnaires comme ça, ça pourrait être très utile dans les écoles, dans une classe, pour travailler avec les enfants sur certains mots, pour travailler aussi, parce qu'ils doivent... Tu vois, les enfants, ils doivent cohabiter avec beaucoup de cultures différentes. Et pour thématiser leurs idées, c'est très pratique d'avoir un dictionnaire comme ça. Ça serait dommage que ce serait seulement pour un public cultivé. Parce que je pense que c'est un outil très, très, très pratique, justement, pour utiliser chez des jeunes pas cultivés. D'utiliser dans les écoles, parce que c'est des mots qu'ils peuvent reconnaître, c'est leur langue. C'est pas ma langue, ce dictionnaire, j'ai presque rien reconnu. J'ai reconnu Pipi Lankos. Parce que j'ai, en plus, moi j'ai pris des mots que je connaissais, consciemment, parce que j'étais devant un dictionnaire, je me disais, mais je connais rien de tout de ces mots. C'est pas mes mots.
On parle pas des mots, on parle de l'objet dictionnaire. Et je pense que c'est là que Paul... Enfin, si je peux me permettre... J'ai l'impression que c'est le livre, comment le faire circuler, à qui va s'adresser, et quels sont... Mais non, mais voilà, qui sont les médias entre le livre et les écoles, etc. Et comment ça va être utilisé. Parce que les mots, évidemment que les mots vont être connus, mais voilà, comment tu apportes le dictionnaire. Enfin, moi, je travaille en école, par exemple, avec des ateliers d'écriture. Le dictionnaire, je peux pas l'amener comme ça. Il faut un accompagnement autour, tu vois. Je peux pas le laisser là... Les gamins vont absolument pas y toucher. Faut, même si tu leur dis, ah, il y a le mot de ton frère, de ton cousin, de ta mère, ils en ont rien à battre, quoi. Donc, voilà, il faut un accompagnement, et cet accompagnement sera avec une réflexion derrière. Donc, moi, j'entends dans ça, cultiver, évidemment, tout le monde est cultivé. On a toute sa culture, mais on a tous notre culture. Mais quand, il y a un rapport élitiste ou élitique qu'il faudrait pas avoir par rapport à ce livre, c'est tout. Et moi, j'entends ça aussi dans cette question de l'objet, pas des mots, pas de la démarche, pas du livre.
Qu'est-ce que ça pourrait être, la médiation entre le livre et le public?
Il faut voir l'objet du livre. Là, l'objet du livre, on est en train de... Oui, oui. Après, on peut parler des profs, on peut parler des enseignants, on peut parler des éducateurs, on peut parler de tous ces gens-là, etc. Le rapport à la langue, en tout cas dans mon expérience par rapport aux profs et aux enseignants, que ce soit en primaire ou en secondaire, il y a une peur... de cette langue autre, de cette langue à côté. Tu parlais de forme impure, le mot impur est typiquement moral, je ne dis pas que tu l'as employé dans ce sens-là, mais c'est quand même, voilà, la forme impure, c'est quand même quelque chose qui nous rapproche à la morale de notre pureté. Et donc voilà, donc moi, si tu veux, il y a eu des... Par exemple, écrire des chansons avec les gamins, écrire des poèmes avec les gamins, il y a une forme de la langue française. Moi, je ne suis pas néerlandophone, je ne pratique pas le néerlandais, mais en tout cas avec les enseignants francophones, il y a une idée du français qui doit être juste, si pas pur, juste. Parce que c'est un outil, parce que c'est un bagage, parce qu'il faut que ces gamins sortent de leur langue, etc. Même avec les meilleures intentions du monde. Enfin, je ne parle pas de francisation ou francicité à tout prix, etc. Oui, peut-être. Moi, je parle de... Alors là, je me remets dans mon contexte d'animateur d'atelier d'écriture. Voilà, et c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'en effet, les gens sont contents. Enfin, j'ai eu plein d'exemples où quand on met des mots turcs, enfin, peu importe, il y a une forme de reconnaissance, mais il ne faudrait pas aller trop loin, quand même. Hein, qu'il y a quand même un petit barrage à un moment pour dire « Ok, dans une chanson, ça va passer. Dans un poème, allez, on y va, quoi. » Mais, enfin, voilà, il y a quand même le « mais » à un moment. On doit traduire le mot, par exemple. Il n'y a pas des mots qui peuvent rester comme ça.
Je crois que la fiction est beaucoup plus que... Oui, c'est ça. La fiction, parfois, est beaucoup plus que juste s'évader. Je crois que ça peut être un outil pour soit se connaître soi ou pour se manier dans une réalité. Pardon.
Non, je disais qu'en dehors de l'évasion, ça pouvait peut-être nous ramener ici, essayer de voir un peu à quoi ressemblait son voisin, qu'est-ce qu'il mange, quel est son accent. S'intéresser peut-être un peu plus à ce qui se passe ici. Moi, je vois ça plutôt ça. Parce que bon, déjà, avec tous ces mots qui viennent de tous les pays, parce qu'ils sont tous teintés de quelque chose. Il y en a qui sont teintés vraiment du terroir bruxellois ou scarbécois, mais il y en a d'autres qui viennent de loin, comme ce malangwa, mais c'est pas si loin que ça, non. Et ça permet de, au lieu de passer par le Congo, le Cameroun, on arrive au Suriname et la Hollande, c'est pas mal. Comme périple, là on est dans le voyage. Mais aussi, c'est aussi pour dire que bon, au lieu de prendre un véritable poisson qui vient de Hollande, on préfère manger un poisson qui vient de chez soi ou qui vient pas de chez soi, mais qui a le nom d'un poisson de chez soi, et il y a la nostalgie aussi.
Oui, ça, moi, je me questionne par rapport à ce dictionnaire et aux mots, par rapport aux mots qu'on a choisis. C'est tout à fait subjectif, ça a été intuitif pendant les conversations. Donc, c'est très fort influencé par les gens qui ont mené les conversations. Et donc, du coup, c'est important de prendre distance de ça, de le tester, disons, de l'ouvrir vers d'autres cerveaux. Mais quand j'ai réagi au mot cultivé, c'est aussi parce que je trouve que c'est très important qu'on crée un livre qui retourne aussi aux gens qui nous ont offert ces mots. Tu vois, on, pour nous, les mots, et ça c'est vrai que pour un lecteur qui reçoit le livre, ce sera différent, mais pour nous, le mot malangwa, c'est pas seulement un poisson, non, c'est tout un magasin qui se trouve avec un couple dedans qui nous a raconté leur histoire. Donc,
c'est un livre pour Happy Few.
Comment? Happy Few? Ah non, non, justement, ça devrait être un livre, ça ne devrait pas l'être, c'est pour ça qu'on est là, pour l'ouvrir.
C'est quoi ce mot-là? Il faut virer ce mot-là, c'est quoi?
Tout à l'heure, tu me posais la question, Peter, sur comment Donatella a répondu par rapport à là où elle a grandi, comment les langues, etc. Moi, j'ai grandi dans le 9 cubes, comme on dit, et le 9-3, donc les Seine-Saint-Denis, qui est la partie est. Ouais, c'est la partie est de la banlieue parisienne, donc banlieue qui veut dire quand même lieu banni, enfin je veux dire on est quand même dans quelque chose. Et les premières vagues d'immigration sont arrivées à l'est de Paris parce qu'il y a c'était une industrialisation intense, parce que les vents ne ramenaient pas les mauvaises odeurs des usines sur Paris. Deuxième, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que c'était marécageux et que donc toutes les occupations précaires devaient disparaître à un moment parce que les ouvriers étaient là et puis normalement ils dégageaient, sauf qu'évidemment ils n'ont pas dégagé, et tous les grands HLM, c'était pas des HLM au départ, hein, c'était des préfabriqués qui ont été transformés en trucs de béton, etc. Donc moi j'ai grandi dans cette zone marécageuse en fait, avec plusieurs vagues d'immigration, et donc on est dans les Italiens dans les années 50, enfin comme en Belgique, enfin à peu de choses près, sauf que c'est plus l'Algérie que le Maroc, un peu moins de Turcs mais aussi plus de Polonais, enfin, mais sinon c'est un peu kiff quoi dans le truc. Donc moi j'ai grandi, mais ça je l'ai dit la dernière fois aussi, j'ai grandi, j'étais la seule, alors j'ai choqué la dernière fois Jérémy, mais j'étais la seule française, mais j'avais mis des guillemets mais ça s'est pas passé dans le micro, mais j'étais la seule blanche quoi, et encore heureusement que j'ai des yeux un peu foutus et un peu foireux chinois machin, mais sinon je passais encore pour... Et donc, voilà, on avait un langage qui était autant contre l'autorité, on en a parlé la fois passée, je ne vais pas remettre ça, mais autant contre les profs, contre l'autorité, contre nos parents, etc. Et aussi un besoin d'être ensemble plus fort, parce que c'était quand même une zone ultra-violente, quoi. Donc moi, j'ai fait partie des clans qu'on appelle les Zoulettes. Toi, tu as peut-être connu... C'est parce qu'il y en a eu aussi en Belgique. Donc les Zoulous et les Zoulettes, c'était des clans de violence qui viennent comme des gangs aux États-Unis. Et donc c'était juste aller faire les malins dans les magasins, aller faire les malins au hall à Paris, monter sur Paris, alors qu'on n'était qu'à 15 km, hein, mais monter sur Paris et aller dans le métro déjà parler mal aux gens, parler mal. C'était aussi ce truc-là, c'était, tu vois. Donc tout le verlan, les mots en arabe, et les mots congolais ou les mots camerounais, les mots... qu'est-ce qu'on avait aussi le bapounou, enfin je ne sais pas si tu connais cette langue qui est une langue de... Merde, je suis en train de chercher... Libreville, le Gabon. Mais les mots comme bouledé, le cul par exemple. Donc tous les mots qui représentaient une sexualité, tous les mots qui représentaient le bouledé, c'est le cul rebondi comme ça. Non, tu vois ? Voilà. Et donc on portait des 500. En bapounou. Mais je crois qu'en lingala, on dit boule aussi ou bouledé ou. Boule, hein, boule ou boule dé, etc. Mais donc, on portait des 501 de mecs parce que ça nous faisait un cul rebondi, chose que, enfin, etc., etc. Donc, il y avait toute cette transformation du corps qui faisait que, qui passait par ces mots-là. On était tous des toubabs ou des babtou, selon que tu le disais. Donc, ça, c'est blanc. Enfin, bon. Donc, voilà, pour dire que quand je rentrais chez moi aussi, moi, ma mère, elle était horrifiée parce qu'elle comprenait absolument pas. Et en plus, je faisais tout pour ne pas me faire comprendre, évidemment, quoi. Mais ça, moi, sur la question de la langue, ça ne m'a jamais paru être une langue, par exemple. Je n'ai jamais eu cette notion de langue différente ou quoi. Pour moi, c'est là... Parce que toi, tu disais à tes enfants, tu ne les comprends pas. Moi, je n'ai pas eu... OK, je savais que ma mère ne me comprenait pas, etc. Mais je n'ai jamais eu cette impression que c'était une langue différente. Je n'avais pas, catégorisé la langue avec ma mère, la langue avec ma grand-mère, la langue... Un des enfants, si... Enfin, moi, c'est assez nouveau, en fait, cette question de la langue étrangère, parce que pour moi, il y a toujours eu des mots...
Le plaisir des mots n'est pas dans la signification des mots. Elle est dans, le fait d'apprécier les mots. Et on est cultivé à partir du moment où on est capable d'apprécier les mots. C'est ça, et en plus de ça, c'est ça le côté sensualité des mots.
Oui. Non, je dis j'aime bien la définition, la nouvelle définition qu'il nous a donnée de qui en fait voilà qui pourra apprécier ce petit ouvrage.
Moi sur ta question Anne, est-ce qu'il y a des mots moi il y a des questions qui des mots qui sont dans le dictionnaire, dans la langue, dans le dictionnaire, enfin on sait encore pas comment l'appeler, mais qui sont exactement ce qu'ils sont dans la vie, comme meraba. Je crois pas qu'il y ait une interprétation ou une évocation d'autre chose que ce que meraba est. Non. Tu vois ? Et je me dis, est-ce que du coup, mais là je réfléchis à voix haute, est-ce que ce mot, parce qu'il est un mot typiquement à traduire, donc on dira que meraba ça veut dire ça, alors là on est dans un rapport très dictionnaire justement. Alors que d'autres thèmes comme le baiser de Malmedy, ça, à part peut-être les gens de Malmedy et les trois personnes qui ont été dans cette boulangerie, personne ne va savoir. Donc moi, je ne dirais pas le mot utile, mais pour moi, il y a deux catégories. Il y a les mots créés, les mots transformés, enfin toute cette masse qui est quand même assez première. Et puis, il y a tous les mots qui sont tels qu'ils sont. Juste des mots qui revendiquent à un moment quelqu'un qui dit « moi, je parle cette langue-là ». Et donc, je dis ma langue, et puis ça devient un mot scarbécois. Pour moi, il y a vraiment deux catégories de mots. Alors après, je ne parle pas d'utilité, parce que ça ne serait pas à moi de faire ce choix-là. Mais je me dis, ils n'ont pas la même place, en tout cas.
Mais c'est par rapport le fait qu'on a aussi chacun nos interprétations, j'ai l'impression, de la liste. Parce qu'il y en a qui focalisent plus sur l'argot ou la combinaison de slang et des gens qui utilisent de différentes langues en mélange, comme les jeunes, pour se cacher. Mais je crois que c'est aussi... toi, tu as mentionné la nostalgie. Et quand tu as dit la nostalgie, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant parce que moi, je parle néerlandais. Avec des gens dont je sais qu'ils sont néerlandophones ou qui parlent néerlandais. j'ai pas l'impression que c'est par nostalgie, c'est par pur pragmatisme. Et c'est un plaisir aussi, parce que c'est plus facile. Non, pas plus facile, peut-être. Oui, le sens d'humour est beaucoup plus pointu en néerlandais qu'en autre langue. Mais je me suis rendu compte que pour plein d'autres gens, le néerlandais est considéré comme une langue officielle à Bruxelles. Donc, mais pour, par exemple, des gens qui parlent berbère, quand ils se rencontrent et ils savent que l'autre est berbère par son nom ou parce que quelqu'un l'a dit, ils ne vont pas se parler en berbère. Ils vont se parler en français. Et quand ils se connaissent vraiment très très bien, là, peut-être, à un moment, ils vont se parler en berbère. Donc, il y a une autre relation encore d'intimité ou c'est, je crois que ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a les différents usages de mots de cette liste par rapport aux réseaux qui sont derrière aussi, quelque chose comme ça.
C'est exactement ça qui nous intéressait au début du projet. On a entendu beaucoup de variations, beaucoup de versions de la langue française, mais ça, c'est même pas vrai parce qu'il y a beaucoup de Polonais qui habitent ici, qui utilisent le français, mais pas vraiment pour s'exprimer, mais pour se connecter à un autre, comment dire, un groupe de gens qui l'utilisent. Donc il y a une sorte de système de relais, non, c'est pas ça, de faire des connexions d'un groupe qui a une langue mère qui est différente à un autre groupe qui utilise une différente langue mère. Et le médium, en fait, c'est la langue bon, dominante, la langue courante, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui ne sont pas francophones. Donc ça, c'est toute une série de questions qui sont liées et qui sont hyper intéressantes. Et on a pensé, oui, ok, donc ça, c'est intéressant à investiguer, quoi.
À ce livre, en essayant de bien comprendre le cheminement que vous avez fait à partir du moment où vous avez dit, on va faire un livre sur la langue scarbécoise, en lançant l'idée, et puis après, la réalité du terrain, jusqu'au choix que vous avez fait. Et donc, c'est là, dans ce chemin-là, qu'il faut trouver le titre de ce que vous...
Dans ce sens-là, je trouve que ces mots-là sont très intéressants. Et je trouve que ce potentiel de croisement et donc de confrontation entre personnes, de par le fait qu'ils se croisent, ils vont, oui ou non, se heurter... Se rencontrer dans le tram ou faire quelque chose ensemble à travers d'un projet permet vraiment, je trouve, réellement à décloisonner beaucoup plus que simplement de par le fait qu'on va faire des activités cosmopolites, disons, et de s'ouvrir à ce qui sont simplement des espaces d'apparence, d'objets, qu'on essaye de partager. Mais c'est de par le fait qu'on essaye de faire des choses ensemble qu'il y a moyen aussi de construire une langue commune, mais langue commune dans le sens, on confronte le sens que ça a, on questionne les coutumes à partir de là. Et...